nuit de France Culture, jusqu'à 6h du matin. France Culture la nuit, une mémoire radiophonique.
Écrit et enregistré en 1947, pour en finir avec le jugement de Dieu, et sans doute, jusqu'à maintenant encore, l'événement radiophonique le plus extrême jamais conçu, l'entreprise rythmique la plus abyssale jamais entendue sur les ondes, c'est le plus beau texte écrit pour une voix en éruption. Que cet objet sublime ait été interdit quelque temps par des imbéciles, quoi de plus normal. Il est encore bien plus aujourd'hui, tombé sous les coups de la pire des censures, l'oubli. Mais les éditions sonores André Dimanche ont heureusement publié 4 heures d'enregistrement conçues par René Farabet, qui regroupe les textes radiophoniques d'Antonin Artaud, indispensables à tous ceux dont le corps et la pensée sont assez libres pour se laisser contaminer, grâce à l'écoute, par la plus radicale des altérités.
Vous allez entendre dans quelques instants, pour en finir avec le jugement de Dieu, par Antonin Artaud. Auparavant, Roger Vitrac vous parle de l'auteur.
Antonin Artaud, un vagabond de l'absolu, un homme dont la pensée enveloppe son corps comme un maillot collant, un voyant qui passe ses paroles au crible de ses nerfs, un poète dont la chair se fait poésie, le mage d'une magie dont il est à la fois le sujet et l'objet, un mystique enfin qui s'abandonne aux férocités humaines, s'appliquant à en faire la preuve par sa propre souffrance, mais qui porte cette couronne brillante que les dieux destinent à ceux qu'ils égarent dans les forêts de ce monde pour leur mieux apparaître et mieux les retrouver. Et avec cela prédestiné sans doute. L'activité d'Antonin Artaud, s'exerçant toujours à sa ressemblance, marque les étapes de sa vie d'images significatives. Sous la direction de Charles Dullin, il joue et met en scène « La vie est un songe » de Calderon. Et le voilà, passé une fois pour toutes, de l'autre côté de la porte de corne, de la porte du rêve. Au cours de sa carrière de comédien, nous le retrouvons dans l'admirable film de Dreyer, c'est lui, le moine extatique, qui présente la croix à Jeanne d'Arc sur le bûcher. Dans le Napoléon de Gans, c'est Marat assassiné dans sa baignoire. Entre-temps, il écrit le Pesner, l'art et la mort, l'ombilique des limbes, autant d'ouvrages dont les titres se suffisent à eux-mêmes. Ensemble, nous fondons le théâtre Alfred Jarry et nous entreprenons de porter le surréalisme au théâtre et de l'illustrer par tous les moyens d'expression, la plastique, la pantomime, la mimique, le décor réel. Ce sont les mystères de l'amour, le songe de Strindberg, Victor ou les enfants au pouvoir, le partage de Midi de Paul Claudel, première tentative riche d'enseignements qui aboutiront à l'extraordinaire et bouleversante représentation des Shenshi. On sait ce que les mises en scène du théâtre actuel doivent à ces réalisations manifestes. Je n'en veux pour preuve que l'admiration de Jean-Louis Barrault pour leur auteur. Antonin Artaud a d'ailleurs développé et précisé ses idées dans le théâtre et son double, ouvrage que ne manquent pas de consulter tous les jeunes metteurs en scène. Mais en marge du théâtre, l'esprit d'Artaud s'est exercé avec aisance vers des littératures et des destins hors série. Je rappellerai pour mémoire son excellente adaptation du Moine de Lewis et une monographie passionnée d'Elio Gabal. Dans cette présentation nécessairement trop courte, je ne puis hélas parler de ses enthousiasmes, de ses délires, de son goût naturel pour la pureté, de son honnêteté intellectuelle, de sa générosité, et de cette véritable vertu qui est la sienne, littéralement et dans tous les sens. Je voudrais dire aussi les voyages, les départs et les retours imaginaires de cet évadé, prisonnier perpétuel, de cet explorateur constamment exploré de lui-même. Qu'il me suffise de dire qu'il garde sa ligne jusqu'au bout, publiant ses messages, signalant et saluant au passage les miracles du Mexique, la harpe d'or d'Irlande, le fantôme solaire de Van Gogh, et conduisant tout seul son char et ses chevaux au panache cruel dans ce cirque fermé dont il est à la fois le héros et le spectateur ébloui. Et maintenant, avant la transmission de la dernière œuvre d'Antonin Artaud, imaginez-le faisant sien à l'appel fervent de Guillaume Apollinaire et vous disant ceci. Soyez indulgents quand vous nous comparez à ceux qui furent la perfection de l'ordre, nous qui quêtons partout l'aventure. Nous ne sommes pas vos ennemis. Nous voulons vous donner de vastes et d'étranges domaines. Pitié pour nous qui combattons toujours aux frontières de l'illimité et de l'avenir. Pitié pour nos erreurs. Pitié pour nos péchés. Et enfin, il y a tant de choses que je n'ose pas vous dire, tant de choses que vous ne me laisseriez pas dire. Ayez pitié de moi.
Veuillez entendre « Pour en finir avec le jugement de Dieu » par Antonin Artaud, avec le concours de Roger Blin, Maria Cazares, Paul Thévenin et l'auteur.
J'ai appris hier. Il faut croire que je retarde. Ou peut-être n'est-ce qu'un faux bruit. L'un de ces sales ragots, comme ils sont colporte entre évier et latrine, à l'heure de la mise au baquet des repas, une fois de plus ingurgité. J'ai appris hier l'une des pratiques officielles les plus sensationnelles des écoles publiques américaines et qui font sans doute que ce pays se croit à la tête du progrès. Il paraît que parmi les examens ou épreuves que l'on fait subir à un enfant qui entre pour la première fois dans une école publique aurait lieu l'épreuve dite de la liqueur séminale ou du sperme et qui consisterait à demander à cet enfant nouvel entrant un peu de son sperme afin de l'insérer dans un bocal et de le tenir ainsi prêt à toutes les tentatives de fécondation artificielle qui pourraient ensuite être tentées. Car de plus en plus, les Américains trouvent qu'ils manquent de bras et d'enfants. C'est-à-dire, non pas d'ouvriers, mais de soldats. Et ils veulent à toute force, et par tous les moyens possibles, faire et fabriquer des soldats. Pour se battre, il faut recevoir des coups. Et j'ai vu peut-être beaucoup d'Américains à la guerre, mais ils avaient toujours devant eux d'incommensurables armées de tanks, d'avions, de cuirassés qui leur servaient de boucliers. J'ai vu beaucoup se battre, et les Américains et leurs machines. J'ai vu beaucoup se battre des machines. Mais je n'ai vu qu'à l'infini derrière les hommes qui les conduisaient. En face du peuple qui fait manger à ses chevaux, à ses bœufs et à ses ânes les dernières tonnes de morphine vraie qui peuvent encore lui rester pour la remplacer par des ersatz de fumée. J'aime mieux le peuple qui mange à même la terre d'où il est né. Je parle des Tarahumaras. Mangeons le peyote à même le sol, pendant qu'il naît. Et qui tue le soleil pour installer le royaume de la nuit noire. Et qui crève la croix des espaces afin que les espaces de l'espace ne puissent plus jamais se rencontrer ni se croiser. C'est ainsi que vous allez entendre la danse du Totogori.
Au bas de la pente amère, cruellement désespéré du cœur, s'ouvre le cercle des six croix. Très en bas, comme encastré dans la terre mère, désencastré de l'étreinte immonde de la mer qui bave. La terre de charbon noir est le seul emplacement humide dans cette fente de rocher. Le rite est que le nouveau soleil passe par sept points avant d'éclater à l'orifice de la terre. Et il y a six hommes, un pour chaque soleil, et un septième homme qui est le soleil, tout cru, habillé de noir et de chair rouge. Or, ce septième homme est un cheval avec un homme qui le mène, mais c'est le cheval qui est le soleil et non l'homme. Sur le déchirement d'un tambour et d'une trompette longue, étrange, les six hommes qui étaient couchés, roulés à ras de terre, jaillissent successivement comme des tournesols, non pas soleil, mais sol tournant, des lotus d'eau, et à chaque jaillissement correspond le gond de plus en plus sombre et rentré du tambour, jusqu'à ce que tout à coup, on voit arriver au grand galop, avec une vitesse de vertige, le dernier soleil, le premier homme, le cheval noir avec un homme nu, absolument nu et vierge sur lui. Ayant bondi, ils avancent suivant des méandres circulaires, et le cheval de viande saignante s'affole et caracole sans arrêt au faîte de son rocher, jusqu'à ce que les six hommes aient achevé de cerner complètement les six croix. Or, le ton majeur du rite est justement l'abolition de la croix. Ayant achevé de tourner, ils déplantent les croix de terre et l'homme nu sur le cheval arbore un immense fer à cheval qu'il a trempé dans une coupure de son sang.
Là où ça sent la merde, ça sent l'être. L'homme aurait très bien pu ne pas chier, ne pas ouvrir la poche anale. Mais il a choisi de chier, comme il aurait choisi de vivre, au lieu de consentir à vivre mort. C'est que pour ne pas faire caca, il lui aurait fallu consentir à ne pas être. Mais il n'a pas pu se résoudre à perdre l'être, c'est-à-dire à mourir vivant. Il y a dans l'être quelque chose de particulièrement tentant pour l'homme. Et ce quelque chose est justement le caca! Pour exister, il suffit de se laisser aller à être. Mais pour vivre, il faut être quelqu'un. Pour être quelqu'un, il faut avoir un os. Ne pas avoir peur de montrer l'os et de perdre la viande en passant. L'homme a toujours mieux aimé la viande que la terre des os. C'est qu'il n'y avait que de la terre et du bois d'os. Et il lui a fallu gagner sa viande. Il n'y avait que du fer et du feu et pas de merde. Et l'homme a eu peur de perdre la merde. Ou plutôt, il a désiré la merde. Et pour cela, sacrifié le sang. Pour avoir de la merde, c'est-à-dire de la viande, là où il n'y avait que du sang et de la ferraille d'ossements, et où il n'y avait pas à gagner d'être, mais où il n'y avait qu'à perdre la vie. Oresh modo! T'aurais dire, Isa, Totali, Topalera Coco. Là, l'homme s'est retiré et il a fui. Alors les bêtes l'ont mangé. Ce ne fut pas un viol. Il s'est prêté à l'obscène repas. Il y a trouvé du goût. Il a appris lui-même à faire la bête et à manger le rat délicatement. Et d'où vient cette abjection de saleté? De ce que le monde n'est pas encore constitué? Ou de ce que l'homme n'a qu'une petite idée du monde et qu'il veut éternellement la garder? Cela vient de ce que l'homme, un beau jour, a arrêté l'idée du monde. Deux routes s'offraient à lui. Celle de l'infini dehors, celle de l'infime dedans. Et il a choisi l'infime dedans, là où il n'y a qu'à presser le rat, la langue, l'anus ou le gland. Et Dieu lui-même a pressé le mouvement. Dieu est-il un être? S'il en est un, c'est de la merde. S'il n'en est pas un, il n'est pas. Or, il n'est pas. Mais comme le vide qui avance avec toutes ses formes, dont la représentation la plus parfaite, et la marche d'un groupe incalculable de morpions. Vous êtes fou, monsieur Artaud. Et la messe? Je renie le baptême et la messe. Il n'y a pas d'acte humain qui, sur le plan érotique interne, soit plus pernicieux que la descente du soi-disant Jésus-Christ sur les autels. On ne me croira pas, et je vois d'ici les haussements d'épaules du public, mais le nommé Christ n'est autre que celui qui, en face du morpion Dieu, a consenti à vivre son corps, alors qu'une armée d'hommes, descendus d'une croix, où Dieu croyait l'avoir depuis longtemps cloué, s'est révolté et bardé de fer, de sang, de feu et d'ossements, avance, invectivant l'invisible, afin d'y finir le jugement de Dieu.
Ce qui est grave est que nous savons qu'après l'ordre de ce monde, il y en a un autre. Quel est-il? Nous ne le savons pas. Le nombre et l'ordre des suppositions possibles dans ce domaine est justement l'infini. Et qu'est-ce que l'infini? Au juste, nous ne le savons pas. C'est un mot dont nous nous servons pour indiquer l'ouverture de notre conscience vers la possibilité démesurée, inlassable et démesurée. Et qu'est-ce au juste que la conscience? Au juste, nous ne le savons pas. C'est le néant. Un néant dont nous nous servons pour indiquer, quand nous ne savons pas quelque chose, de quel côté nous ne le savons, et nous disons alors conscience du côté de la conscience, mais il y a 100 000 autres côtés. Et alors? Il semble que la conscience soit en nous liée au désir sexuel et à la faim. Mais elle pourrait très bien ne pas leur être liée. On dit, on peut dire, il y en a qui disent que la conscience est un appétit, l'appétit de vivre. Et immédiatement à côté de l'appétit de vivre, c'est l'appétit de la nourriture qui vient immédiatement à l'esprit. Comme s'il n'y avait pas des gens qui mangent sans aucune espèce d'appétit et qui ont faim. Car cela aussi existe, d'avoir faim sans appétit. Et alors? Alors, l'espace de la possibilité me fut un jour donné comme un grand P que je ferai. Mais ni l'espace, ni la possibilité, je ne savais au juste ce que c'était. Et je n'éprouvais pas le besoin d'y penser. C'était des mots inventé pour définir des choses qui existaient ou n'existaient pas, en face de l'urgence pressante d'un besoin, celui de supprimer l'idée, l'idée et son mythe, et de faire régner à la place la manifestation tonnante de cette explosive nécessité. Dilater le corps de ma nuit interne, du néant interne de mon moi, qui est nuit, néant, irréflexion, mais qui est explosive affirmation qu'il y a quelque chose à quoi faire place. Mon corps est vraiment... Le réduire à ce gaz puant, mon corps. Dire que j'ai un corps parce que j'ai un gaz puant qui se forme au-dedans de moi. Je ne sais pas. Mais je sais que l'espace, le temps, la dimension, le devenir, le futur, l'avenir, l'être, le non-être, le moi... Le pas moi ne sont rien pour moi. Mais il y a une chose qui est quelque chose. Une seule chose qui soit quelque chose. Et que je sens à ce que ça veut sortir. La présence de ma douleur de corps. La présence menaçante. Jamais lassante de mon corps. Si fort qu'on me presse de questions et que je nie toutes les questions, il y a un point où je me vois contraint de dire non. Non ! Alors à la négation. Et ce point, c'est quand on me presse, quand on me pressure et qu'on me traite jusqu'au départ en moi de la nourriture, de ma nourriture et de son lait. Et qu'est-ce qui me reste ? Que je suis suffoqué. Et je ne sais pas si c'est une action, mais en me pressant ainsi de questions jusqu'à l'absence et au néant de la question, on m'a pressé jusqu'à la suffocation en moi de l'idée de corps et d'être un corps. Et c'est alors que j'ai senti l'obscène et que j'ai pété de déraison et d'excès et de la révolte de ma suffocation. C'est qu'on me pressait jusqu'à mon corps. Et jusqu'au corps. Et c'est alors que j'ai tout fait éclater. Parce qu'à mon corps, on ne touche jamais.
Mais vous délirez, monsieur Artaud. Vous êtes fou. Je ne délire pas. Je ne suis pas fou. Je vous dis qu'on a réinventé les microbes afin d'imposer une nouvelle idée de Dieu. On a trouvé un nouveau moyen de faire ressortir Dieu et de le prendre sur le fait de sa nocivité microbienne. La plus cachée, c'est de le clouer au cœur, là où les hommes l'aiment le mieux, sous la forme de la sexualité maladive qu'il revêt. Dans cette sinistre apparence de cruauté morbide qu'il peut prendre aux heures où il lui plaît de tétaniser et d'affoler comme présentement l'humanité. Il utilise l'esprit de pureté d'une conscience demeurée candide comme la mienne pour l'asphyxier de toutes les fausses apparences qu'il répand universellement dans les espaces, et c'est ainsi qu'Artaud le Momo peut prendre figure d'halluciné. Que voulez-vous dire, monsieur Artaud? Je veux dire que j'ai trouvé le moyen d'en finir une fois pour toutes avec ce saint. Et que si personne ne croit plus en Dieu, tout le monde croit de plus en plus dans l'homme. Or, c'est l'homme qu'il faut maintenant se décider à émasculer. Comment cela? De quelque côté qu'on vous prenne, vous êtes faux, mais faux allié. En le faisant passer une fois de plus, mais la dernière, sur la table d'autopsie, pour lui refaire son anatomie. Je dis, pour lui refaire son anatomie. L'homme est malade parce qu'il est mal construit. Il faut se décider à le mettre à nu pour lui gratter cet animalcule qui le démange mortellement. Dieu, et avec Dieu, ses organes, tous ses organes, oui, car, liez-moi si vous le voulez, mais il n'y a rien de plus inutile qu'un organe. lorsque vous l'aurez fait encore sans organes, alors vous l'aurez délivré de tous ces automatismes et rendu à sa véritable liberté. Alors, vous lui réapprendrez à danser à l'envers, comme dans le délire des bals musettes. Et cet envers sera son véritable endroit.
Mesdames, Messieurs, vous venez d'entendre « Pour en finir avec le jugement de Dieu » par Antonin Artaud, avec le concours de Roger Blin, Maria Cazares, Paul Thévenin et l'auteur.
Toutes les guerres planétaires qui pourraient ensuite avoir lieu et qui seraient destinées à démontrer par les vertus écrasantes de la force, la surexcellence des produits américains et des fruits de la sueur américaine sur tous les champs de l'activité et du dynamisme possible de la force. Parce qu'il faut produire, il faut, par tous les moyens de l'activité possible, remplacer la nature partout où elle peut être remplacée. Il faut trouver l'inertie mène un champ majeur. Il faut que l'ouvrier ait de quoi s'employer. Il faut que des champs d'activité nouvelles soient créés. Et que ce soit le règne enfin de tous les faux produits fabriqués, de tous les ignobles ersatz synthétiques où la belle nature vraie n'a que faire et doit céder une fois pour toutes et honteusement la place à tous les triomphaux produits de remplacement ou le sperme de toutes les usines de fécondation artificielle aura enfin de quoi s'employer. Plus de fruits, plus d'arbres, plus de légumes, plus de plantes pharmaceutique ou non. Et par conséquent, plus d'aliments. Mais des produits de synthèse à satiété. Dans des vapeurs. Dans des humeurs spéciales de l'atmosphère. Sur des axes particuliers. Des atmosphères tirées de force et par synthèse. Aux résistants d'une nature que la guerre, et qui la guerre n'a jamais connue que la peur. Et vive la guerre, n'est-ce pas? Puisque ce sang, c'est la guerre que les Américains ont préparé et qu'ils préparent pied à pied pour défendre cet usinage insensé contre toutes les concurrences qui ne sauraient manquer de toutes parts de s'élever. Il faut des soldats, des armées, des avions, des cuirassés. De là, ce spectre auquel il paraîtrait que les gouvernements de l'Amérique auraient eu le culot de penser. Nous avons plus d'un ennemi, mon fils. Nous, les capitalistes. Et parmi ces ennemis, la Russie de Staline, qui ne manque pas non plus de bras armés. Tout cela est très bien. Mais je ne savais pas les Américains, un peuple aussi guerrier.
Cette émission a été diffusée pour la première fois le 2 février 1948.